C'est avec émotion que nous vous invitons à écouter ce nouveau CD d'un cours de Rav Aaron Daniel Heyman Shlita, Rosh Yeshivat Mekor Israël à Épinay. Il a été enregistré, comme beaucoup d'autres cours donnés par le Rav Heyman, au Centre Poissonnière, à Paris, de mercredi en mercredi, entre 89 et 92. Le Rav Heyman nous convie ici à une réflexion sur la fin et les moyens, en prenant appui sur les versets 7 à 11 inclus, du 13e chapitre, Parasha Lech Lecha, du livre de Bereshit, et le commentaire de Rashi. Cet enregistrement est dédié à la mémoire de Marc Ben Moa, Zichrono Livrocha, de son nom hébraïque, Mordechai Ben Mesaouda, Zichrono Livrocha, envers qui la Yeshiva Mekor Israël d'Épinay, et nous tous, à travers elle, avons une reconnaissance infinie et éternelle. Nous vous en souhaitons une excellente écoute.
Alors prenez la deuxième ligne. Vous avez le pasuk Zayin. Alors, d'abord on va lire tous les psukim, et après on va essayer de voir ce qui se passe. Vayehi riv, il est arrivé une dispute. Ben Roé, Mikne Avram, entre les bergers des troupeaux d'Avram, ou Ben Roé, Mikne Lot, et entre les bergers des troupeaux de Lot. Vaknani, Vaprizi, et les Knaanim et les Prizim, deux peuplades, Az, Yoshev, Baaretz, ce sont eux qui occupaient le pays. Vayomer Avram et Lot, Avram a dit à Lot, Alna, Tehi Meriva, Beni ou Benecha. Alna, je t'en prie, Tehi Meriva, Beni ou Benecha, que l'on ne se dispute pas, que ne soit pas de dispute entre toi et moi. Ou ben roaï ou ben roecha, et entre tes bergers et les miens. Ki anashim achim anachnu, parce que nous sommes des frères. Allo kol haaretz, n'est-ce pas que toute la terre, le fanecha, est à ta disposition? Iparedna mealai, va-t'en de chez moi. Ima semol, si tu vas à gauche, ve mina, j'irai à droite. Vimayamin, et si tu veux aller à droite, Vasmila, j'irai à gauche. Vaïssa Lot et Ténav, Lot a levé les yeux. Vayar et Kolkikar Yarden, il a vu toute la vallée du Jourdain, qui coula Mashke, qui était bien arrosée, on dirait aujourd'hui. Lifnei Shachet Hashem, avant que Hashem ne détruise, et Sdom vet Amora, les villes de Sodom et d'Amora, que Gan Hashem, comme le jardin d'Akadosh Baruch Hu, que Eretz Mitzrayim, comme la terre d'Égypte, Boacha Tzohar, dans la direction de Tzohar. Vaivchar lo Lot, et kol kikar yarden, Lot a choisi la vallée du Jourdain, Vaissa Lot mikedem, il est allé vers l'ouest, Vaipardou, Ish, Mealachiv, ils se sont séparés l'un de l'autre. Ça, c'est le texte de la Torah. On va recommencer. Vaïriv ben Roé Mikne Avram ou ben Roé Mikne Lot. Il y a eu une dispute entre les bergers. Regardez Rashi. La deuxième ligne dans le Rashi en bas. Le fils Shayuroav, Shelot, Roshaim, Omarim, Behemtam, Besdot, Acherim. Les bergers de Lot, c'étaient des gens qui allaient faire paître leurs troupeaux dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Veroé Avram, Ochichimotam, à la gazelle. Les bergers d'Avram les réprimandaient sur cette faute qui est du vol. Vemomrim, eux disaient, Nitna, Haaretz, la Avram. La terre, puisqu'il s'agissait du pays de Canaan, c'est pour ça que le verset dit « Vaknani va prisi az yoshev haaretz ». Cette terre a été promise à Abraham. Velo enyoresh, Abraham n'a pas d'héritier. Velo tiorcho, et c'est Lot qui est son unique héritier. Ve'en zegezel, ça n'est pas du vol. Vakatuv omer, et le verset à ce moment-là dit Vaknani va'prizi az yoshev ba'aretz, et le Knani et le Prizi étaient à l'époque l'habitant du pays. Velo zachaba Avram adayin, et Avram n'occupait pas encore, n'avait pas encore la propriété de la terre de Canaan, ça n'était qu'une promesse. Donc on va relire le verset avec Rashi. Vayi riv, il y eut une dispute ben roé mikne Avram ou ben roé mikne Lot. Il y eut une dispute entre les bergers d'Avram et ceux de Lot à propos de l'héritage d'Avram qui était la terre de Canaan. Vaknani va prisi az yoshev ba'aretz. De toute façon, la terre n'appartenait même pas à Avram. Vayomer Avram et Lot, al tei meriva beni ubenecha. Avram a dit à Lot, al tei meriva. Que ne soit pas de dispute beni ubenecha entre toi et moi. Ensuite, il ajoute, ben roaï, entre mes bergers ou ben roecha et tes bergers. La première difficulté vient ici. On s'est disputé une fois. Alors on dit, écoute, il va falloir se séparer pour pas qu'on se dispute. Mais on n'a pas vu dans le verset que Avram et Lot étaient en litige. On n'a pas vu qu'il y avait une dispute entre Avram et Lot. On a vu qu'il y avait une dispute entre les bergers d'Avram et ceux de Lot. On n'a pas vu qu'il y avait une dispute entre les deux. Et Rashi ne dit rien. Vayomer Avram et Lot, alnati meriva beni ubenecha. Pourquoi est-ce qu'on va se disputer? Ki anashim achim anachno, on est des frères. Quand on dit achim, Rashi dit anashim krovim. Ça veut dire on est proche. Ce serait malheureux qu'on se dispute. Premier problème. Halo kol haaretz lefanecha. Voici la terre est à ta disposition. Tu vas t'établir où tu veux. I paredna me'alai, va-t'en. Imas molve imina ve ima imin vasmeila. Regardez ce que Rashi dit. Imas molve imina. Vous voyez le Rashi trois livres avant la fin. Bechol asher teishev lo etrachek mimcha. Il dit si tu vas à gauche, je vais à droite. Pourquoi est-ce que Avram lui racontait qu'il irait à droite? Il dit, ça veut dire que je ne serai pas loin de toi. Je ne serai jamais avec toi. Mais je ne serai pas loin. Il dit, c'est pas toujours qu'on est sur moi. Tu sais que si tu vas vers la gauche, tu me trouveras à ta droite. Tu vas aller vers la droite, tu me trouveras à ta gauche. C'est ce qu'Avram a dit. Il lui a dit, Imasmol, si tu choisis la gauche... Alors choisis la gauche. Avram dit non, tu me trouveras toujours à ta droite. Vei mayamin, et si tu choisis la droite, vasmila, tu me trouveras à ta gauche. En fin de compte, il est Rashi, on a vu que Lot a eu besoin d'Avram, puisque lorsqu'il y a eu la guerre avec les rois de Sodome, c'est Avram qui l'a tiré, qui l'a sorti de là où il était en captivité. Si vous avez deux personnes qui sont proches au point que Avram a vu de l'idée, ne l'effleure même pas de s'éloigner de Lot. Il dit, quand tu seras à droite, tu me trouveras à ta gauche. Alors reste avec lui. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là qui dit, voilà, ensemble, on ne va pas s'en sortir. Mais on va rester proches comme ça. Si jamais tu as besoin de moi, tu me trouveras. Donc ça veut dire qu'Avram a vu nous tenir à Lot. S'il tient à lui, arrange-toi. Alnat et Iriv. Il ne faut pas se bagarrer, donc il faut se séparer. Mais comme on est proche, on ne va pas se séparer d'une façon qui est trop forte. On va rester proche l'un de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Vaïsalot et Tena, Vayar et Kolkikar et Yarden, Kikula Mashke, Lifne Shachet Hashem, et Zdom et Tamora, que Gan Hashem, Kiret Mitzrayim, Boachotso. Nous on a traduit. Lot a levé les yeux et voilà ce qu'il a vu. qui coule à Mashke. C'est-à-dire c'était la bonne terre. Rashi dit Eretz Nachalemaim. C'était une terre où il y avait beaucoup d'eau. Qu'est-ce que le verset vient nous raconter ici? D'abord, le principal, c'est la séparation. Que l'autre choisisse parce que c'est une terre fertile ou pas fertile. Il n'y a qu'à jouer à pile ou face. Il va d'un côté, Abraham va de l'autre. Mais non, il a choisi parce que c'était une terre fertile. D'abord, si c'est pour me dire qu'il a laissé à Abraham Avinu la mauvaise part, c'est pas vrai. L'autre côté aussi pouvait être fertile. Qu'est-ce qu'on vient me raconter en me disant « Vaï salov et tena vaïa » Il a vu. Puisqu'il a vu, il est allé vers là-bas. Ils se sont séparés. D'accord. On va essayer peut-être de répondre à notre question avec ce verset Yud. Vaïsalot et Einav Vayar et Kolkikar Yarden. Il a levé les yeux et voilà ce qu'il a vu. Pourquoi est-ce que le verset nous raconte ça? Parce qu'il est possible que si ça avait été Abraham qui avait levé les yeux, ça n'était pas ça qu'il aurait vu. Lot, lorsqu'il a levé les yeux, voilà ce qu'il a vu. Donc le verset peut-être vient nous dire, lorsqu'on a la même perspective, un lève les yeux, il voit ça, et l'autre lève les yeux, il voit autre chose. Qu'est-ce que l'autre a vu? Il a vu Kikar Yarden. Il a vu cette vallée qui était fertile, ça l'a attiré. C'est ce qu'il a vu. Nous, on a dit, si c'était Abraham qui avait levé les yeux, peut-être qu'il aurait vu autre chose. C'était ça qu'on veut nous dire. Mot à mot, ça veut dire qu'on voit ce qu'on est disposé, peut-être même programmé, à voir. Il devait avoir autre chose à voir, puisque Vaïsaloretena Vayar et Kolkikar Yarden Kikula Mashke. Mais voilà ce qu'il a vu. On a déjà dit, ça c'est une grande idée qui existe dans les versets de la Torah. C'est qu'un homme perçoit ce qui s'est éduqué à percevoir. Ce que je me suis éduqué à percevoir, je le perçois. Je perçois ce qui m'intéresse. Ça veut dire que la perception, dans un sens, c'est quelque chose qui m'agresse, mais dans un autre sens, c'est quelque chose qui suit mes idées. C'est-à-dire que je projette ce que je suis dans ma perception des choses. Si on remonte au verset Chet, Vayomer Avram et Lot, Avram a dit à Lot, on va voir exactement le contraire. Avram, il vient chez Lot, il lui dit, voilà, nos bergers se sont disputés. Fatalement, il y aura une dispute entre nous. Les commentateurs ici demandent pourquoi. Les bergers se disputent, laisse les bergers se disputer. On ne peut pas vivre dans un environnement sans que cet environnement déteigne sur vous. C'est vrai que pour l'instant, c'est le problème des bergers. Mais un jour, ça va devenir le problème d'Avram et de Lot. C'est ce que le Gaon de Vilna appelle, comme ça le Ramban aussi le dit au commencement de Bereshit, Yetzer Hara Mibachutz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans une certaine mesure, je suis victime de ce que l'extérieur m'oblige à intégrer. Vient Abraham chez Lot, il dit, on ne peut pas vivre ensemble. On est obligé de se séparer. Ça veut dire, je ne peux pas vivre longtemps avec des voleurs. C'est pas possible. On appelle ça Yetzer Hara Mibachutz. je suis obligé de choisir mon environnement. Et toi, vu l'attitude de tes bergers, tu n'es pas un environnement pour moi. Donc, un jour, ça va mal se passer et on va se disputer. En bas, on nous dit, Vaï salot et teinav. Qu'est-ce qu'il a vu lorsqu'il a levé les yeux? Ce qu'il voulait voir. Ça veut dire quoi? Ça n'est pas toi qui es victime de l'environnement, mais au contraire, c'est toi qui choisis ton environnement. C'est toi qui projettes tes idées. Et à travers tes idées, tu vois. Vous allez mettre quelqu'un dans une pièce obscure et on va mettre quelques objets qui sont plus éclairés que les autres. Lorsque ces personnes vont en sortir, il y en a un qui a vu tel objet, l'autre a vu tel objet. Tout le monde n'a pas vu tous les objets. Et après, on va pouvoir déterminer pourquoi tel et tel a vu tel objet et l'autre a vu d'autres objets. C'est-à-dire que je projette mes idées même à travers les sens les plus objectifs. La même chose pour Louis. On va mettre deux personnes dans un certain environnement où il y a plusieurs choses à entendre. L'un va entendre ceci et l'autre va entendre cela. Lorsque vous demanderez à quelqu'un, mais tu n'as pas entendu l'autre chose, il n'a rien entendu. Alors, tu n'as pas entendu ce que tu as entendu? Non, il n'a pas entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement qui a une influence sur moi, mais c'est moi qui perçois l'environnement selon ce que je me suis accommodé à percevoir. D'Avraham, on a vu le contraire. C'est le contraire. Je suis obligé de choisir mon environnement parce que j'en suis victime. Il y a des choses que je ne peux pas ne pas voir. Il y a des choses que je ne peux pas ne pas assimiler. Donc on voit que les deux données existent. C'est à nous de déterminer quand est-ce qu'une donnée prendra le pas sur l'autre et dans quel cas et dans quel sens les deux choses vont-elles. Nous, on aurait réagi autrement. On aurait dit, voilà, Anashim, Achim, Anachnou, on est des frères. Des frères ne se séparent pas parce qu'il y en a un qui agit comme ça et l'autre qui agit comme ça. D'abord parce que il faut être tolérant. Ensuite, parce que si tu penses que tu te conduis mieux que lui, eh bien, essaye de l'influencer. Ensuite, parce que presque chaque idée recouvre d'autres idées qu'on peut toujours prendre de n'importe qui. Donc on aurait trouvé une multitude de raisons pour dire que Anashim Anachno, puisque vous êtes tellement proches, on ne doit pas se séparer. On ne sépare pas. Pourquoi se séparer? Pourquoi est-ce que nous, justement, nous raisonnons comme ça? Parce qu'on a tellement pris l'habitude de se disputer que le fait d'être ensemble, et on a pris tellement l'habitude d'être seul, que le fait d'être ensemble, c'est une valeur en soi pour nous. On est des frères, on ne sépare pas. Mais pourquoi? Parce que les frères ne se séparent pas. Et pourquoi les frères ne se séparent pas? Ben parce qu'ils sont frères. Ça veut dire qu'on a acquis des valeurs qui pour nous sont absolues. Mais pas parce qu'on les a jugées absolues. Parce qu'on est victime de l'environnement. Ou on est victime d'un héritage. Avant, des frères ne se séparaient pas ou des gens proches parce qu'il y a un intérêt commun, on est plus fort à deux que un. C'est-à-dire que c'est vis-à-vis de l'adversité. Il y a une valeur que l'on donne, nous, dans le mot « ensemble », qui est au-dessus des jugements qu'on pourrait porter. Voilà ce qu'on a décidé. On ne se sépare pas. La paix, il faut l'obtenir absolument. Avraham Avinu n'a pas raisonné comme ça. Peut-être parce que, justement, lui, il n'avait pas l'habitude de se disputer. Alors le fait d'être ensemble, ce n'était pas une valeur en soi pour lui. Ou peut-être parce qu'il était juge de cette valeur en soi. Ce n'est pas une idée qu'il avait reçue. Que ensemble, c'est la plus grande des choses. Peut-être que lui, lorsqu'il était seul, il ne se sentait pas dans l'adversité. Peut-être que seul, il avait une existence possible. Il n'avait pas toujours besoin de l'autre pour exister. Allez savoir pourquoi, pour Avraham Avinu, le fait de se séparer, ce n'était pas un drame comme nous, on aurait pu penser. On va lui demander à Avraham Avinu, mais et la bonne influence que tu as sur l'autre? Peut-être qu'il nous aurait dit que cette façon de raisonner là, c'est une façon d'abord un peu présomptueuse. Croire qu'on peut manipuler les autres. Et même si elle n'est pas présomptueuse, c'est une façon de faire vivre à l'autre quelque chose qu'il n'a pas choisi. Ça veut dire que tout ce qui fait chez nous des valeurs qu'on ne remet pas en cause parce qu'on pense qu'elles existent en soi, on doit pouvoir admettre que quelqu'un d'autre les remette en cause. C'est-à-dire que pour Avraham Avinu, c'est pas un malheur de se séparer, au contraire. Peut-être que s'il avait la même expérience que nous, de la galoute, alors à ce moment-là, il aurait trouvé que c'est un grand malheur de se séparer. Je ne sais pas. On est obligé quand même de dire qu'il y a chez nous des valeurs qu'on ne juge pas soi-même, mais auxquelles on se juge. C'est-à-dire qu'on les prend pour des valeurs qui sont pour nous des choses absolues. Et lorsqu'on n'est pas capable, lorsqu'on ne veut pas s'y référer, le manque est chez nous, pas dans la valeur. Et personne n'est capable de dire exactement d'où ça vient. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est valable dans toutes les situations? Donc on voit que si la Torah nous a rapporté cet épisode, c'est que de se séparer, ça fait partie d'un certain chemin. C'est pas valable tout le temps, mais ça fait partie d'un certain chemin. Pourquoi? À cause justement de ce qu'on appelle ce Yetzirara Mibachutz, qui veut dire que fatalement, dans mon raisonnement, j'intègre, parce que je ne suis pas capable de me mesurer à toutes les idées. Et il y en a que j'intègre sans les filtrer. Elles font partie de moi. Et si j'étais capable, moi, de juger chaque chose, et de décider et d'être clair dans chaque idée, j'aurais pas d'idées reçues. Je n'aurai que des idées consenties. Sinon, je ne suis pas capable de ça. Donc c'est à moi de choisir l'environnement dont je pense que les idées reçues seront les meilleures pour moi. Donc lorsque je dois habiter avec quelqu'un, c'est évident que je ne vais pas choisir un voleur. Même si ce n'est pas lui le voleur, c'est ses bergers les voleurs. Il y a des notions que je ne veux pas intégrer malgré moi. À l'inverse, on a dit, l'autre, lorsqu'il a levé les yeux, il a vu ce qui l'intéressait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Les pâturages. Donc Avraham Avinu avait bien jugé qu'un jour, il y aurait la bagarre entre lui et l'autre, pas seulement entre les bergers. Puisqu'en fin de compte, il ressemblait à ses bergers, ce qui l'intéressait, c'était les pâturages. Ce qui intéressait Avraham Avinu, c'était le fait de voler ou de ne pas voler. Le pâturage, c'était juste une façon de se conduire ou comme ça ou comme ça. Donc j'ai deux attitudes. Quelqu'un qui vient, il me dit, voilà, avec un voleur, je ne peux pas vivre. D'abord, qu'est-ce que ça peut te faire qu'on vole un petit peu le Knani? Ça, ça ne me fait rien. Mais le problème, ce n'est pas le Knani. C'est que peut-être la vie va falloir l'avoir d'un autre côté. Que le Knani, il est juste là pour savoir si je vais le voler ou non. Donc c'est pas le problème du Knani. C'est mon problème. Ça veut dire, qu'est-ce qui est la valeur et qu'est-ce qui est l'état de fait? Nous, on va dire, l'état de fait, deux frères ne se séparent pas. Ah, les valeurs, il va falloir composer. Comment est-ce qu'on sait composer? On sait composer, nous. On dit, bon, tu vas un petit peu perdre, parce que tu vas te frotter à des gens qui ne sont pas très sains. Seulement, tu vas avoir la bonne influence que tu vas avoir. On va déjà trouver. Ça veut dire qu'on a trouvé comme valeur le fait de ne pas se séparer. Voler ou ne pas voler, par rapport au problème de la séparation, ce ne sont pas des valeurs. Ce sont les constantes de la vie. Mais moi, je pourrais dire le contraire. Je pourrais dire le fait d'habiter ensemble ou de ne pas habiter ensemble, d'être frère et d'être proche, ce sont seulement les modalités de la vie. Et la seule valeur, c'est voler ou ne pas voler. Je peux raisonner autrement. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble dans le même environnement? Donne un exemple simple. Quelqu'un se marie, choisit son conjoint comme on sait choisir. Sûr de lui, il a parlé de tout. On pense la même chose, on vient de la même famille. Arrive le jour de Tu Bishvat et l'épouse va dire au mari, il faut que tu nous achètes 15 fruits parce qu'on va faire les brachot de Tu Bishvat. Formidable. Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller choisir 15 fruits. Comment il va choisir les fruits? Il ne va pas choisir les fruits qui vont ensemble ou pas ensemble. Il va choisir les fruits que ça c'est une bracha comme ça, ça c'est un shekhriyanou, ça c'est ceci, ça c'est cela. Maintenant que le fruit soit gros, beau, le prix au kilo, c'est pas sans problème, puisque le fruit il l'achète juste pour faire les brachot, c'est ce qu'on lui a dit. Achète des fruits parce qu'on va faire les brachot. Donc il achète des fruits pour des brachot. Des fruits pour des brachot. D'abord on n'a pas besoin de comparer deux sortes de fruits puisque c'est la même bracha. On ne va pas comparer les prix puisque c'est la même bracha. Alors il revient avec les fruits. Sauf, qu'est-ce que tu as acheté là? Il dit, tu m'as dit pour faire les brachot. Voilà, toutes les brachot possibles, imaginables, elles sont là. Il y a le shekhriyanou, il y a tout ce que tu veux. Voilà. Il dit, quoi, faire des brachot sur des fruits pareils? D'abord, on n'a plus le goût quand tu payes trois fois le prix de faire une bracha dessus. En plus, au moins, si déjà on va faire une bracha, que le fruit soit bon. Parce que si le fruit n'est pas bon, pourquoi faire une bracha? Qui c'est qui a raison? Les deux ont raison. Seulement quoi? Ils vivent dans un environnement différent. Attention, l'exemple, il peut être le contraire. Quelquefois, c'est le monsieur qui demande à madame d'aller acheter les fruits. Attention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à travers les mêmes mots, le même intérêt des choses, il y en a un qui va comprendre que la bracha, c'est ça le but et non le fruit. Et l'autre qui a compris que le but c'est le fruit et le moyen c'est la bracha. Comment on va pouvoir accorder les violons? On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compromis. Parce que, en fin de compte, ils se disputent, ils vont chez le rabbin. Qu'est-ce que le rabbin dit? Il dit, qu'est-ce que ça pouvait te faire de penser à ta femme et d'acheter un beau fruit pour faire le shekhriyanou? Que ça peut te faire? Ah. C'est-à-dire, il faut que je vive dans l'environnement de l'autre pour pouvoir m'en sortir. Toujours, il y en a un. En hébreu, ça s'appelle levater. Levater, ça veut dire quoi? Renonce. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Renoncer, ça veut dire vivre la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour lesquels le mot renoncer, c'est pire qu'une obscénité. Et il y a des gens pour lesquels le mot renoncer, c'est quelque chose d'une valeur absolue. L'autre, il est renoncé, c'est que c'est renoncé. Il dit, mon cousin aussi, quand il s'est marié à l'église, il a renoncé. Il était mevater. C'est les renoncer. Quoi renoncer? Ça n'existe pas renoncer. Je ne vais pas me couper en mille morceaux. Je donne un morceau à chacun, qu'est-ce qui reste? On ne peut pas renoncer. On ne peut pas renoncer à la vie. Ça veut donc dire qu'à travers le même langage, à travers de l'extérieur les mêmes valeurs, on confond les moyens et les buts. Pour les uns, ce qui est un moyen, c'est pour l'autre un but. On va aller plus loin encore. Il est arrivé un jour en Angleterre qu'un homme s'appelait Cohen, avec un W-E-N. Il était nommé ministre. Et juste après avoir été nommé ministre, il a démissionné. Bon. Quelqu'un est venu chez lui, il a demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez démissionné? Il a dit, mais puisque j'étais ministre. La reine d'Angleterre, on ne peut pas devenir. Alors maintenant, ça y est, je démissionne.
Dis-le, tu comprends pas. Toute ta vie, tu as travaillé pour être ministre et maintenant tu démissionnes. Mais évidemment. Parce que le but, c'était pas d'être ministre. Le but, c'était de prouver qu'un juif peut être ministre. Pour ça, il n'y a pas besoin de rester plus que quelques secondes dans le bureau du ministre. Tu sais ce que ça veut dire. Profite, puisqu'en Angleterre, on peut être ministre, alors sois ministre. C'est ça que tu as voulu prouver. Pour un, c'est une fin, pour l'autre, c'est un moyen. Puisqu'on peut, un juif peut devenir ministre. Alors ça y est, on t'a ouvert, tu as toutes tes chances. Pourquoi tu n'es pas ministre? Il y a la fin, il y a le moyen. Dans chaque chose, dans chaque décision, il y a toujours une décision qui pèse d'un côté parce que j'ai choisi que ce côté-là, c'est la fin, et l'autre, c'est le moyen. Je ne peux pas, moi, vivre dans un environnement où c'est le contraire. C'est impossible. Tu vas dire, il faut être meuvataire, renonce. Alors, ça dépend hein, comment je vis. Plus je vis selon, non pas mes moyens, mais mes fins, moi, je peux renoncer. Mais celui qui vit selon les moyens, il peut renoncer. Pour les petites choses, on peut renoncer. Et les choses ne sont pas importantes. C'est des moyens, ce ne sont pas des fins. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Mais on va aller plus loin. On a dit, nous, que l'environnement, c'est nous qui le fixons selon nos idées. L'autre, il a vu le Kikar et Arden. Peut-être qu'Abraham, il aurait vu le Mont Moria, on va savoir. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, Velota Turo Achare Levavchem, Vachare Enechem. Ne te laisse pas entraîner. Achare Levavchem, c'est le cœur. Vachare Enechem, c'est les yeux. Dans la Gemara, c'est le contraire. D'abord, les yeux voient. Et ensuite, le cœur désire. Et moi, non, c'est pas vrai. Les yeux voient ce que le cœur désire. Donc, c'est moi qui fixe l'environnement, c'est vrai. Et d'un autre côté, on voit l'Avraham Avinu, c'est le contraire. Quand est-ce que c'est l'un et quand est-ce que c'est l'autre? On va poser la question autrement. Si l'environnement est dans mon moment, je ne perçois que ce que je veux percevoir, il n'est jamais dangereux pour moi. C'est moi qui est dangereux pour l'environnement. Parce que si je n'ai pas vu qu'il y a une belle poterie à côté de mon pied, c'est moi qui vais la casser. L'autre l'a vu, il va la respecter. Donc c'est moi qui est dangereux pour l'environnement. L'environnement n'est jamais dangereux pour moi. D'un autre côté, on me dit le contraire. Il dit, Avraham Avinu, on ne peut pas vivre avec un voleur. Parce qu'on va devenir comme lui. Donc c'est l'environnement qui fait de moi ce que je suis. Pourquoi dans un cas c'est l'un, dans l'autre cas c'est l'autre? On va essayer de répondre à cette question. Il y a marqué dans le prophète, dans Yeshayahu, au chapitre 66, lorsqu'il veut décrire le peuple juif, il dit Ubeshikutsehem Nafsham Chafetza. On va essayer de traduire. Shikuts en hébreu, ça veut dire abomination. Ubeshikutsehem, dans leurs sales histoires, dans leurs abominations, Nafsham Chafetza, c'est leur personne qui le désire. Vous avez déjà vu quelqu'un qui désire une abomination? C'est le contraire. Chefetz, le vouloir, et Chaketz, le dégoûtant, ce sont deux mots qui s'opposent. Parce que si je le désire, c'est que ça me fait plaisir. Si c'est Chaketz, c'est abominable, c'est que je ne le désire pas. Mais quel est le fou qui désire ce qui est abominable? D'accord? Ubeshikutsehem nafsham chafetza. Le verset est intraduisible, ça ne veut rien dire. À moins qu'on dise que Shikutsehem, c'est au regard de l'un, et au regard de l'autre, c'est Nafsham Chafetza. Lorsque le prophète, il regarde, il dit Shikutsehem, c'est l'abomination. Mais lorsque eux, ils regardent, il dit c'est des choses tout à fait désirables. On va aller plus loin encore. Il y a quelqu'un qui prie à Kadosh Baruch Hu, rends-moi heureux. Il va être heureux. Alors il y a marqué dans le Horasaz un exemple très simple. Il dit tu veux être heureux? Il a tellement prié qu'il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner le bonheur qu'il cherche. C'est quoi pour lui le bonheur? Il veut être paisible. Il veut être content dans son environnement. Comme aujourd'hui, il veut n'avoir que du bonheur. Très bien. Alors il a tellement bien prié que la nuit, il se met à rêver du bonheur qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner. Et qu'est-ce qu'il rêve? Il voit un chazien dans une poubelle. Il est heureux. Il a tout ce qu'il lui faut. Il est adapté exactement à son environnement. Il ne souffre de rien. C'est le bonheur absolu. Il se réveille. Ou Bechikutsehem. Il dit quoi? Ce bonheur-là, hein, je ne veux pas. Et pourquoi le chazir, il le veut? Parce que ce qui est pour toi abominable, pour l'autre, c'est son désir. On va aller plus loin que ça encore. Ce qui hier pour toi c'était Shikutse, hein? Aujourd'hui c'est Nafsham Khafetza. Parce qu'on change, on s'adapte. Ce qui hier était pour toi Nafsham Khafetza, ce que tu désirais le plus au monde, ça peut devenir Shikutse, hein? C'est quelque chose qui dégoûte. Comment c'est possible qu'aujourd'hui ça dégoûte et hier tu en avais envie? Comment c'est possible que hier quelque chose te dégoûtait absolument et aujourd'hui tu en as envie? C'est bizarre. Comment c'est possible? Il a juste fallu faire un petit effort d'adaptation. Ce qui hier te dégoûtait pour qu'aujourd'hui ce soit agréable, c'est pas venu tout seul. Parce que l'environnement n'a pas une prise absolue sur toi. Il a fallu faire un petit effort. C'est pas tout de suite qu'on en arrive là. Il faut faire un petit effort. Ce petit effort, je le veux pourquoi? Parce que bien que quelque part, je sais que c'est Shikutseem, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Mais comme il y a quelque chose au fond de moi qui le désire tellement, alors je fais un effort pour m'adapter à ce désir. J'en arrive à ce qui hier était pour moi la chose la plus immonde. Aujourd'hui, j'en suis très heureux. Il demande à Kadosh Baruch Hu de le rendre heureux. On va dire oui, mais heureux comme le chazir. Il dit chazir shalom. C'est Shikutseem, ça ne m'intéresse pas. Le même genre de bonheur, oui, mais pas avec les mêmes éléments. Ah, ce n'est qu'une question de moyens. Le but, c'est le même. Les moyens, on s'adapte. On va s'adapter tout doucement aux moyens. Type, il se retrouve 10 ans après. Il fait exactement le même rêve. Seulement, le chazir, c'est lui. Tout ce qui était Shikutseem, c'est devenu ce que lui a besoin maintenant. C'est pas venu tout seul. Ça veut dire que l'environnement, il ne fait que proposer. S'adapter à l'environnement, il faut faire un petit effort. Ça vient pas tout seul. Voilà la différence entre les deux notions. L'extérieur m'agresse. C'est difficile de s'adapter à l'extérieur. Mais si je fais un petit effort, je vais arriver à ce que l'extérieur se soit totalement adapté à moi. Parce que je ne le considère que comme un moyen. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a une fin qui est pour moi l'idéal. Si c'est le bonheur, on va s'adapter au bonheur. Il y a des gens pour qui la drogue, c'était Shikutseem. Il ne va jamais toucher la drogue. 2 ans après, ça y est. Comment tu as fait? Parce que le but, c'était s'oublier. Le moyen, on s'adapte au moyen. C'est la fin qui est importante. Et la fin, on la poursuit. C'est la même. On n'a fait que changer le moyen. Qu'est-ce qui est la fin et qu'est-ce qui est le moyen? Toute la vie, c'est ça. Et c'est à moi de le décider. Parce qu'avec le moyen, je vais toujours m'habituer. De la fin, on ne peut pas m'habituer. Là, c'est moi qui porte le regard. Sur ce qui est la fin, c'est moi qui porte le regard. L'autre, il a levé ses yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qui pour lui était une fin en soi. Une vallée fertile. Non. Pour l'avoir, pour s'installer, il faut un petit peu voler par-ci, il faut voler par-là. Ça, ce ne sont que des moyens. La conduite morale ou l'éthique, ça n'est pas une fin en soi. La fin, hein, c'est d'avoir le Kikara Yarden. La fin, c'est de posséder l'héritage d'Avraham Avinu. Comme ci, comme ça. Ce qui pour moi est une fin, c'est moi qui le détermine. ce qui pour moi est un moyen, ces moyens-là, ils me sont imposés par l'extérieur. Et je m'y adapte. Au commencement, c'était difficile. Mais comme la fin est la même. De toute façon, ma vie, c'était quoi? C'est d'oublier les tsarotes. C'est d'oublier les problèmes. C'est de vivre dans le rêve. Alors, on commence par le cinéma et par la télévision. Et pourquoi on termine pas par la drogue? Ah, tu vas dire, mais hier, tu n'en voulais pas. Avec un petit effort, on arrive à s'adapter. Ou be shikut sehem. Ce qui était pour eux abominable. Nafsham chafeitza. Maintenant, tu le veux. Mais comment c'est possible que tu le veux? Parce que le moyen a changé. Mais la fin, c'est la même. Et toi, tu n'es pas du tout exigeant sur les moyens. Tu n'es exigeant que sur la fin. Et tous les hommes sont comme ça. On n'est pas exigeant sur les moyens. On est exigeant que sur la fin. Si la fin, c'est la bracha, on s'en fiche que le fruit n'est pas bon. Ça, c'est que le moyen n'est pas exigeant sur le moyen. Si la fin, c'est le fruit et le moyen, c'est la bracha, alors c'est pas possible que le fruit ne soit pas beau. Plus rien ne veut rien dire. On a demandé, quand est-ce qu'on pose son regard sur l'extérieur et quand on est victime sur l'extérieur? Le regard que je pose sur l'extérieur, c'est selon ce qui est pour moi une fin, le but. Et alors les moyens, je vais les déterminer. Et c'est moi qui fixe ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est approprié, ce qui n'est pas approprié. Tous les moyens dont j'ai besoin pour ma fin, je les découvre. Seulement quoi? Comme je suis absolument obligé d'arriver à mes fins, l'extérieur va me proposer d'autres moyens. Et là, je sais m'adapter. Parce que dans les moyens, on n'est pas regardant. C'est-à-dire que les deux sont vrais. Il y a un phénomène, et on appelle ça la phénoménologie. Lorsque je jette un regard sur quelque chose, je vois ce que je veux voir. Selon mes fins, je vais découvrir les moyens. C'est vrai. Mais il y a autre chose qui s'appelle Yetzara Mimachout. On va me dire, mais pour la même fin que tu as, on va te proposer des moyens. Et tout d'un coup, on n'arrive plus à s'en sortir. Parce qu'on a mélangé ce qui était pour nous une fin et ce qui est un moyen. On ne sait plus. Ce qui est pour moi le but de la vie, on ne peut pas me demander d'y renoncer. Et si on me demande d'y renoncer, il faut que je trouve un but encore plus grand. Vous savez que les chassidim, ils avaient une habitude qu'aujourd'hui, il n'y a plus, qui est celle-ci. Lorsque quelqu'un était malade et qu'on voyait qu'il allait mourir, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les choses faciles. On prend les Tehillim, on dit au bon Dieu de régler la circulation, parce que de toute façon, on ne peut rien faire. On change de nom. On fait ce qui est facile. Mais les chassidim faisaient autrement. Ils faisaient comme vous voyez dans les synagogues, avant la Kriyat HaTorah, maftir 100 francs. Alors ils disaient, voilà, cet homme a 50 ans, il va mourir. On va lui donner 30 ans de vie. Qui c'est qui donne 2 ans? Et il levait le doigt. Pas qu'il disait Tehillim, pas qu'il changeait de nom. Il dit, ça tu peux le faire assis confortablement dans ton fauteuil, ça te coûte quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il rassemblait tous les nedavot, c'est-à-dire les années de vie que les autres donnaient, et après il commençait à prier. C'est un peu différent. Mais là, on va faire le compte. Quelqu'un il dit, voilà, tu vas donner 2 ans de ta vie pour Plony. Il dit, pourquoi moi, je vais donner à Plony? Le temps, c'est la seule chose qui existe pour moi. Ce qu'on appelle la vie. Pourquoi je vais donner à l'autre? Tu veux mon argent? Prends de l'argent. Tu veux mes vêtements? Prends mes vêtements. Mais la vie, c'est une chose qu'on ne peut pas donner. Pourquoi on ne peut pas donner? Parce que je peux donner des moyens, je peux me priver dans mes moyens. Mais renoncer à la fin, on ne peut pas. Ça ne veut plus rien dire. Ah, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait plus d'importance encore. Quoi? Peut-être le fait de donner à l'autre, c'est plus important que de vivre soi-même. Oh, on a changé de fin et la vie c'est devenu un moyen de pouvoir donner à l'autre. Maintenant on peut. Ça dépend comment on voit les choses. Aujourd'hui ça ne viendrait pas à l'idée. Pourquoi? Parce que on va chez quelqu'un, on lui dit tu as du maaser. On va lui dire mais tu vas donner de la vie. Il dit ça va pas la tête. D'abord il cotise à la recherche pour le cancer. Alors il connaît la valeur de la vie. C'est des choses qu'on ne donne pas. On ne peut pas. c'est une question de fin ou de moyen. Ça, ça dépend de l'idée de la personne. Lorsqu'on parle, on parle toujours par machal. Machal, ça veut dire par parabole. Le mot appelle une image. L'image, ça dépend de ce que j'ai décidé. Quelquefois, ça dépend aussi de mon environnement. Comment est-ce que j'ai été éduqué? Quelles sont mes idées premières? Mais quelqu'un qui me parle, il me parle par image. Et c'est à moi de donner un sens à sa parole. Je ne donne pas le même sens. Il m'a dit, tu vas acheter des fruits pour faire chez Riano. Moi, j'ai compris comme ça, que c'était vraiment pour faire chez Riano. Et elle a compris qu'il faut faire chez Riano parce que déjà on a acheté le beau fruit, on mange bien, alors on donne une petite partie au bon Dieu aussi. Avec les mêmes mots, on a une image différente. Si je veux, je peux tout doucement vivre dans l'autre environnement et m'habituer. Et je vais changer. Ça, c'est ce qu'on appelle Yetzara Mibachut. Mais l'a priori, le regard que je pose avant, ça dépend de ce que j'ai déterminé comme étant la fin en soi pour moi. Ça va très loin. Au point qu'on peut encore déterminer autre chose. Il y a une mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, elle est simple, tout le monde la connaît. C'est écrit dans le 5e livre de Varim. Ve'alachta bidrachav. Ve'alachta bidrachav, notamment ça veut dire tu vas marcher dans les voies que Hakadosh Baruch Hu a prévues pour toi. C'est simple, c'est clair. Quand on dit tu vas marcher dans les voies de l'autre, c'est-à-dire qu'il faut lui ressembler. On n'a pas besoin de lui ressembler dans le corps, on peut lui ressembler dans les idées, on peut lui ressembler dans les actes. Si j'essaie de savoir, moi, comment je me situe par rapport à cette mitzvah-là, dans la façon dont je m'habille, à qui je ressemblais, sûrement pas à Valar Tavidracha, au bon Dieu. Dans la façon dont je me conduis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dans la tête un modèle qui est le mien. Je suis obligé de le comparer tout le temps, au modèle qui est celui qui est marqué dans la Torah, Ve'alarta bidrachav. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas être obligé de vivre dans l'environnement du bon Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut pas toujours s'échapper. Et à un moment, ça vous rattrape. Alors à ce moment-là, si tu ne sais pas vivre dans cet environnement, t'es fichu. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Chacun sait au fond qu'il doit raisonner comme ça. Seulement, dans la façon que j'ai d'y accéder, ça ne peut pas marcher. Puisque moi, toute ma vie, c'est de ressembler à tout à fait autre chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner un contenu aux choses qui fait que chaque chose, ça devient un moyen toujours pour une idée. Pas une fin en soi, pour une idée. Et cette idée, elle est marquée dans la Torah, Valar Tamid Rachav. Et il va sortir que je ressemblerai exactement à l'autre, on sera les mêmes. Seulement ce qui est pour l'autre un moyen, pour moi c'est quelquefois une fin. Et ce qui est pour l'autre une fin, moi ce n'est qu'un moyen. Pourquoi? Parce que je vais saisir chaque occasion que j'ai de me mouvoir pour comparer est-ce que Bémet, à l'Artabirachav, j'y vais. Ce qui veut dire que j'ai une possibilité, moi, d'avoir un éclairage constant qui est de savoir quelle est ma fin. Selon cette fin, tout le reste, ce n'est que des moyens. Comme ça, je dois raisonner, moi. C'est vrai que je suis influençable. Après, quand les moyens vont commencer à changer, alors la fin aussi, elle va. Parce que je m'habitue à ça. Parce que ça vient de l'extérieur. Ce qui fait que des notions les plus simples, qui sont les nôtres, Anashim Achim Anachnu, on est les frères on ne se sépare pas. C'est qu'un moyen ça, c'est pas une fin en soi. Pourquoi on ne se sépare pas? Donc on pose pas la question pourquoi, c'est ça la fin. Les moyens c'est quoi? C'est que si un il fait le Shabbat, l'autre il ne fait pas, alors on va faire chacun à moitié de Shabbat. Puisqu'en fin de compte, la fin c'est d'être ensemble. Mais si la fin c'est de faire le Shabbat, Alors le fait d'être ensemble et de faire une moitié de Shabbat, ça ne veut plus rien dire. C'est pas un moyen pour arriver à cette fin. C'est à moi de juger. C'est-à-dire que le regard que je porte, il est clair qu'il transcrit exactement ce qui est pour moi une fin et ce qui est pour moi un moyen. Ça, c'est lorsque je porte le regard. Mais après, on va commencer, on a dit, ou Veshikut Seyem, ce qui était quelque chose de très difficile à faire, on va s'habituer à faire. Moi, j'avais un jour un ami, il a décidé que les mitzvot de la Torah, c'était plus pour lui. Un jour, décidé fermement. Et il est passé, on dirait, du positif au négatif, carrément. Alors je lui ai demandé quelle était la chose la plus difficile. C'est quand même difficile de s'adapter. Ou Beshikutse, Mnafsham Khafetza, c'est dur. Il m'a dit le plus difficile, c'était la kippa. Il dit parce qu'il y a une identité. Et tu veux ressembler à l'autre, alors que tu n'as pas de raison de ressembler à l'autre. Il faut se forcer. Il dit après déjà, la mettre la kippa, ça devient dur. Mais il a fait un effort. Il est arrivé à enlever la kippa. Quelle était la chose la plus dure après? Manger ta ref. Pourquoi? Ça te fait vomir. Alors on vomit une ou deux fois. Et après on s'habitue, on a fait un effort. Après on commence à comparer les goûts. Ou me chikoutse emnaf chamra fait ça. C'est pas les autres qui me forcent, c'est moi qui m'adapte. Les autres ils m'ont pas forcé. Yitzharami bachout, ça veut dire que les moyens, c'est moi qui vais les choisir par rapport aux fins. Et comme je ne trouve pas les moyens dont j'ai besoin, l'environnement va me procurer d'autres moyens et je vais m'habituer tout doucement. C'est dur, la première fois, c'est dur. J'ai dit, qu'est-ce qui était la plus facile? Il dit, la plus facile, c'est de se marier avec une non-juive. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que la kippa, je vivais avant avec, maintenant je vis sans. Kacher, je mangeais kacher, maintenant je ne mange pas kacher. Mais je n'étais jamais marié avec une juive pour savoir la différence. Oh. Il a raison. Parce que là, c'est même pas Chikoutsem. C'est un moyen que je ne connais pas. Je ne connais pas. Il n'a jamais vécu à deux. Ah, je lui ai dit, c'est quoi le mariage? Il dit, c'est très simple. Quand il y a un journal qui parle trop d'Israël, tu vas le lire dans les WC. Il dit, c'est ça le mariage mixte. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ces gens disent, oh, tu parles toujours de ça. Arrête. Il dit, moi, je suis bretonne, je ne parle pas de ça. Et quelqu'un arrive à s'adapter à ça aussi. Jusqu'au jour où il commence à se demander, tout ça c'est une fin ou c'est un moyen? Et si c'est un moyen, c'est pourquoi? Ah, et à ce jour-là, ça casse. Plus de prise sur lui. Parce que ce qui était pour lui une fin en soi, c'est devenu qu'un moyen. Tu pars, tu viens, divorce, pas divorce, plus rien à faire. Mais comment c'est possible? Tu as tout cassé pour ça. Et maintenant, à ce moment-là, c'était une fin, maintenant c'est devenu un moyen. C'est pour ça qu'on doit comprendre. Que c'est vrai que je choisis mon environnement. C'est vrai que j'influence mon environnement. Il y a des gens qui se considèrent comme les gens les plus délicats et qui cassent leur environnement comme des éléphants dans un magasin porcelaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir chez leur famille, chez leurs enfants, chez leur entourage. Ils cassent tout. C'est le regard que tu portes sur l'environnement qui définit ton environnement. C'est vrai. Ça, c'est au début. Ça, c'est quand tu portes toi le regard. L'environnement a une force sur la personne qui lui propose des moyens. Et lorsque ça n'est pas clair, quelles sont les fins exactes et quels sont les moyens exacts, alors on commence tout doucement à s'habituer. Et c'est un petit peu difficile, on s'habitue. Et on change de moyen parce que la fin est toujours la même. Mais si la fin est exactement contraire, on n'est pas victime de l'environnement. Baal Shem Tov dit quelque chose de plus grave encore. Il dit que le vrai tzaddik, il ne voit jamais ce qui est mal. Il le devine. Parce que c'est marqué dans la Torah et son raisonnement le lui dit. Mais il n'arrive pas à le voir. C'est son raisonnement. C'est une spéculation intellectuelle. Mais le voir, il n'arrive pas. Parce que ça ne fait plus partie de son environnement. Et il pense que tout est bien. Comme ça n'est pas possible. Et qu'il y a une restriction intellectuelle. Donc c'est son intellect qui va le diriger. Mais ce n'est plus son jugement. Et son jugement, il devient victime ou en tout cas subordonné à son intellect. C'est-à-dire qu'on peut en arriver jusque-là.
Tiskula Mitzvah se Rosh Yeshiva Raveiman pour votre shiur. Dvar Torah a enregistré plusieurs dizaines de cours du Raveiman qui n'ont pu encore être édités. Ce sont des cours inestimables. Vous pouvez contribuer à leur diffusion en dédiant un cours, comme ici, à la mémoire d'un être cher. Le profit qu'il en retirera, comme le vôtre, sera immense. C'est celui que procure l'accomplissement de la mitzvah de la diffusion de la Torah. Joignez-nous vite à Dvar Torah au 01 48 29 65 29. Aussi, pour recevoir notre catalogue. À très bientôt. Kol Tov.